Rebecca, tu reçois donc maintenant Hélène Arter, historienne spécialiste de l'histoire des États-Unis et du Canada et professeure en histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Bonsoir Hélène.
Bonsoir.
Bonsoir Hélène. Alors il y a 80 ans et deux jours, le 7 décembre 1941, la base navale américaine Pearl Harbor fut bombardée par les forces japonaises. L'attaque de Pearl Harbor marqua l'entrée en guerre des États-Unis. On va y revenir, pardon. Alors Hélène, vous êtes une spécialiste de cet événement puisque vous avez publié un livre, donc Pearl Harbor, dédié à cette bataille aux éditions Talendier. Et vous animez, donc on l'a dit ce soir, une conférence à l'Institut franco-américain à ce sujet. Alors pour commencer, peut-être que je peux vous demander pourquoi le Japon a bombardé le quartier général de la flotte militaire américaine au milieu du Pacifique. Et est-ce qu'on avait atteint quelque part un summum dans les tensions entre ces deux puissances?
Alors, c'est une très bonne question pour commencer. Alors, tout d'abord, ils avaient un plan d'attaque beaucoup plus large, hein, qui englobait les possessions américaines, mais aussi britanniques en Asie-Pacifique. Et s'ils visent en particulier Pearl Harbor, c'est parce qu'il y a la flotte américaine. Et ils estiment qu'il est impératif de la détruire s'ils veulent, sur la longue durée, avoir la maîtrise des mers et gagner la mer dans le Pacifique. Donc c'est un enjeu très tactique et en même temps très stratégique qu'ils ont en tête en cette matinée du 7 décembre 1941.
Et d'où nous viennent un peu ces ambitions du Japon? Ça fait longtemps quelque part qu'il y a cette recherche de conquérir.
Oui, tout à fait. En fait, ils sont en rivalité avec les États-Unis pour être la grande puissance régionale de la région depuis la fin du 19e siècle. Ils rivalisent notamment par leurs flottes respectives. Ils sont dans une sorte de course aux armements. Et en fait, il faut relire cet événement de décembre 41 dans une suite de tensions qui se sont accumulées depuis plusieurs décennies et qui s'accélère depuis le début de la Seconde Guerre mondiale sous fond d'expansion en Chine et de rétorsion économique des États-Unis qui veulent arrêter cet expansionnisme nippon.
Et au lendemain de l'attaque, Franklin Roosevelt déclare lors d'un discours au Congrès que les États-Unis étaient en paix avec le Japon et étaient même à la demande de ce pays en pourparler avec son gouvernement et son empereur sur les conditions du maintien de la paix dans le Pacifique. Alors, comment expliquer l'échec de ces tentatives un peu de maintien de la paix?
Parce qu'en fait, il y avait deux tendances, aussi bien aux États-Unis qu'au Japon. Ceux qui pensaient que la solution militaire était la seule envisageable, et puis d'autres qui estimaient qu'on pouvait arriver à sortir de la crise en négociant, en faisant le jeu de la diplomatie. Et donc, en fait, on voit bien que cet événement, c'est l'échec de la voie de la négociation. L'enjeu étant, on l'a rappelé au début, hein, de desserrer l'étau économique que les États-Unis font peser sur le Japon. Et donc, on sort de plusieurs semaines de négociations qui n'ont pas du tout fonctionné, en fait.
Et on sait que cette attaque, elle a été extrêmement rapide, puisque ça a duré moins de 2 heures. Alors comment ça s'est organisé cette attaque? Est-ce que c'était prémédité depuis longtemps par le Japon? Qui l'a prémédité? Et ensuite, pendant l'attaque même, comment ça s'est passé concrètement? Quels moyens? Quelle temporalité?
Alors c'est une attaque d'une très très grande ampleur, hein, puisqu'il s'agit de déployer les forces japonaises sur plus de 6000 km, hein, ce qu'on avait jamais fait jusque-là, en mobilisant plusieurs porte-avions, des centaines d'avions, des pilotes, des mécaniciens, tout le carburant qui va avec. Et donc c'est un plan qui est conçu depuis plusieurs mois, qu'il a fallu faire valider par les autorités militaires et politiques japonaises et qui a été mis en application dans les dernières semaines. Et donc c'est un peu le paradoxe d'un plan très long dans la préparation, dans la minutie du détail. On a répété les attaques très précises sur les bâtiments en amont, dans une sorte de jeu de guerre. Et puis cette attaque très courte finalement, 2 heures, mais 2 heures extrêmement intenses, pendant laquelle se joue le destin de cette flotte du Pacifique, mais aussi des bases aériennes qui la protègent sur l'île d'Oahu.
Et est-ce que les USA, quelque part, s'y attendaient? Les États-Unis s'y attendaient? Ou vraiment, ça a été une surprise totale?
Alors, je crois qu'il y a deux niveaux. C'est-à-dire que l'opinion publique, dans sa grande majorité, ne croit pas à la réalité de la guerre ou de l'immédiateté de la guerre. D'ailleurs, en ce début de décembre 1941, les Américains ont à la tête, ils pensent aux fêtes de Noël, ils font leurs préparations, ils font leurs achats. Et puis, il y a les élites, et notamment le président en tête, qui a bien conscience que la situation s'est considérablement dégradée avec le Japon et que la guerre est inévitable. Mais la grande question qui se pose, c'est la temporalité, savoir quand les Japonais vont attaquer, savoir où ils vont attaquer. Et ce qui est sûr, c'est que pour les Américains, l'option d'une attaque à Hawaï est une option qui paraît très irréaliste, d'où l'effet de surprise de ce dimanche matin.
Et j'ai lu que les Américains s'attendaient notamment à une offensive, mais plutôt en Malaisie ou aux Philippines. Et ouais, c'est vrai que c'était un endroit qui n'était pas du tout envisagé dans les différents scénarios. Alors à 9h45, la base est totalement détruite. Alors quelles ont été les conséquences immédiates vraiment de cette attaque, à la fois sur le plan humain, matériel ?
Alors tout d'abord, l'ampleur des pertes humaines. On est à plusieurs milliers de marins qui perdent la vie, des dizaines d'aviateurs aussi qui sont tués lors des opérations. Et puis l'ampleur des destructions, en particulier en ce qui concerne la couverture aérienne et puis les cuirassés qui sont mis hors d'état de combattre pour l'essentiel et pour lesquels il va falloir plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour les remettre en état de fonctionner pour ceux pour qui c'est encore possible. Donc l'ampleur vraiment des destructions matérielles en plus des pertes humaines qui est un énorme choc pour la marine américaine. Je crois qu'il y a un chiffre qui parle. En une journée, la marine américaine a perdu plus d'hommes qu'elle n'en a perdu pendant toute la Première Guerre mondiale. Donc c'est une date catastrophique pour les marins.
Et ils étaient vraiment totalement impuissants, il n'y a pas eu du tout de riposte quelconque.
Alors ils ont bien essayé, mais l'effet de surprise est tel que déjà tout d'abord au début, ils croient que c'est un exercice, ils ne se rendent pas totalement compte que ce n'est pas le cas. Et puis l'attaque est tellement rapide, il faut imaginer que la taille de l'archipel est petite, et de l'île d'Oahu en particulier. Donc c'est une attaque qui arrive un peu de tous les côtés. Et donc ils ont, surtout lors de la première vague, quasiment pas le temps de répliquer.
Et en quoi cette destruction de la base de Pearl Harbor par le Japon a impacté derrière par la suite la Seconde Guerre mondiale ?
Alors c'est un changement majeur puisque en fait, à l'issue de cette attaque, il va y avoir une sorte de consensus national qui n'existait pas jusqu'alors. Les Américains se rallient quasi totalement à l'idée d'entrer en guerre. Ils sont derrière le président. On voit la différence avec la France, où la guerre divise. Aux États-Unis, c'est l'inverse. Et donc, à partir de là, les Américains vont mettre tous leurs moyens militaires, humains, économiques dans l'effort de guerre. Ils vont apporter leur contribution aux Britanniques et au Commonwealth. Et ce faisant, ils vont changer les rapports de force dans la guerre et offrir une résistance importante à l'axe, puis ensuite être en capacité de refouler l'axe et de les écraser militairement.
Et donc ça a aussi bousculé finalement le cours même de l'histoire.
Tout à fait.
Pour la suite. Le lendemain de l'attaque, dans son discours au Congrès, le président donc Franklin Roosevelt qualifie le 7 décembre de jour qui restera à jamais marqué d'infamie. Qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a toujours cette notion-là d'infamie, de quelle manière cet événement il est évoqué, peut-être représenté à la fois aux États-Unis et au Japon ?
Alors ce jour d'infamie, vous avez raison d'employer cette expression, c'est l'expression qui rentre dans l'histoire, mais qui parle surtout aux contemporains avec l'idée que les Japonais ont été perfides et qu'ils ont attaqué alors que, vous le rappelez, ils étaient en train de mener des négociations diplomatiques, ce qui est contraire aux usages diplomatiques en vigueur. Aujourd'hui, ce n'est plus cette question de l'infamie, puisque de toute façon, les deux pays se sont réconciliés au début des années 1950 et sont devenus alliés. Mais ce qu'on retient, c'est surtout ce jour qui fait basculer les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Plus largement, un jour qui fait qu'ils vont accepter d'être une superpuissance, ce à quoi ils s'étaient refusés jusque-là. Donc cette Amérique superpuissance post-45, c'est l'héritière de cette journée très, très particulière. Et puis c'est en même temps un sentiment de vulnérabilité que les Américains ont découvert. Et on voit bien combien cette idée a été profondément intériorisée lorsque notamment il y a l'événement en septembre. Et le premier réflexe des Américains en septembre 2001, c'est de faire le parallèle avec Pearl Harbor. Donc ça fait partie de ces dates qui font vraiment événement. Et aujourd'hui encore, même un Américain moyen qui n'a pas fait de très très longues études est capable d'expliquer en quelques mots qu'est-ce que Pearl Harbor et qu'est-ce que le 7 décembre 1941.
Et Peut-être je peux vous demander aussi quelle est la vision de la part des Japonais sur cet événement ?
Oui, alors, au moment de l'annonce de l'attaque, un très grand sentiment de fierté nationale, de patriotisme. Les radios s'arrêtent pour annoncer l'événement, on se congratule. Y a vraiment cette idée que c'est une bonne chose pour le Japon. Et ça se comprend, c'est une victoire. Et puis il y a tout le patriotisme à l'œuvre depuis une décennie. Aujourd'hui, ce n'est pas tellement Pearl Harbor dont on se souvient. On se souvient surtout des conséquences, c'est-à-dire Hiroshima et Nagasaki. Et c'est plutôt ces événements qui sont pour les Japonais des marqueurs de l'histoire, de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi de l'après. Et donc c'est plutôt ces événements qui comptent, bien qu'ils soient évidemment la conséquence directe de l'attaque sur Pearl Harbor.
Et on a commencé à le mentionner tout à l'heure un petit peu. Quelle est la place dans la mémoire collective de cet événement
aux États-Unis ?
Aux États-Unis, oui.
C'est toujours un lieu de mémoire. Hein, depuis les années 60, a été érigé un mémorial sur le lieu même de l'attaque dans la rade. Il est visité par à peu près un peu plus d'un million de personnes par an. Bon, ça, c'est les chiffres évidemment avant pandémie. C'est un passage obligé hein, quand on va à Hawaï, avec des publics très variés. Alors des anciens combattants, de moins en moins nombreux, on le comprend bien, beaucoup de scolaires. Et donc l'idée, c'est vraiment qu'il y ait une transmission en direction des jeunes générations à un moment où les générations combattantes n'existent plus. Et donc cette dimension mémorielle, elle est extrêmement forte. On pourrait préciser d'ailleurs que ce mémorial associe le cuirassé Missouri, c'est le cuirassé sur lequel a été signée la reddition japonaise en août 1945. Et donc on voit bien début, fin, par la force du symbole, la défaite qui commence, et puis à la fin, la victoire américaine et de ses alliés dans le Pacifique, qui clôt d'une certaine manière un récit mémoriel.
Et récemment, le Pentagone a annoncé avoir terminé son programme d'identification des victimes. Donc 355 marins américains dont des dépouilles étaient restées anonymes pendant longtemps ont été finalement identifiés. Comment expliquer que ça n'arrive que maintenant ? Ça semble un peu tardif, 80 ans après.
Tout d'abord parce qu'à l'époque, on n'avait pas les moyens techniques et notamment les moyens ADN. Et puis surtout parce qu'il faut imaginer l'état d'urgence en ce 7 décembre. On a fait le maximum, c'est-à-dire on a sauvé ceux qui pouvaient être sauvés. Les blessés, il a fallu les extraire de l'eau, du kérosène qui brûle. Certains sont brûlés, déchiquetés. Donc il y a cette sauvegarde des blessés. Et puis très vite, on prend conscience qu'on ne va pas réussir notamment à enlever les corps parce qu'il y a un enchevêtrement de ferrailles, de bâtiments qui ont coulé. On abandonne et on donne la priorité à la récupération du matériel. Et on se projette dans la reconstruction des bâtiments qui ont été touchés. On récupère les ferrailles pour en faire des nouveaux, etc. Et donc cette dimension du deuil individuel n'est pas pensée prioritaire dans les événements qui suivent. Hein. Je crois, vous l'avez rappelé, il n'y a pas qu'Hawaï qui est attaqué. Les Philippines aussi sont attaquées. Et en fait, dès le 8 décembre, la priorité, c'est sauver les Philippines pour qu'elles ne tombent pas entre les mains des Japonais. Donc tout ça fait que l'urgence du moment n'est pas à s'occuper des situations individuelles. La mort a été collective à Hawaï et on n'est pas à la recherche soldat par soldat, marin par marin, aviateur par aviateur.
Eh bien, merci beaucoup,
merci
Hélène,
à vous
pour cette plongée au cœur de la bataille de Pearl Harbor. On vous retrouve à 18h30 à l'auditorium de l'Institut franco-américain, donc 7 quai Chateaubriand à Rennes, pour une conférence entièrement dédiée à la bataille de Pearl Harbor, l'occasion d'approfondir ses enjeux, de comprendre son impact sur les mémoires. N'oubliez pas de réserver votre place en amont sur le site. Et puis, encore merci à vous.
Encore merci à vous de m'avoir invité.